Livres, BD,
films, musique,
jeux, spectacles.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.
Bonjour. Après la pause estivale, c'est avec plaisir que je vous retrouve au chaudron des découvertes. Nous allons traverser l'Atlantique dans un pays qui, en ce moment, fait parler de lui. Il s'agit des États-Unis. Eh ouais, quand même, hein. Donald Trump et Kamala Harris en campagne à 2 mois des présidentielles, ce n'est pas rien. Mais au fait, a-t-on jamais vu un autochtone, enfin, comme on dit, un Native American, briguer la Maison Blanche? Parce que, quand même, ils étaient là avant, non, les Indiens que Christophe Colomb a nommés ainsi en se trompant de continent? Et la suite ne va guère être réjouissante pour les populations autochtones, victimes de la colonisation européenne. Parce que, en effet, les premiers colons ont apporté avec eux des maladies auxquelles les Amérindiens n'étaient pas immunisés, et de ce fait, une très grosse majorité de la population amérindienne sera détruite. Et cela, entre parenthèses, c'est valable pour l'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud. Et puis, guerre, esclavage, occidentalisation forcée, accaparement des terres, réserves, j'en passe. Pour les Amérindiens des États-Unis, la terre est leur mère. Tout ce qui est dans la nature, être vivant ou non, participe au lien sacré de la vie. Pour eux, ils disent que l'homme n'a pas tissé la toile de la terre, il en est simplement le fil. Chaque élément naturel, chaque animal est digne de respect. Les trois ouvrages dont je vais vous parler font donc référence à ces Amérindiens. Bien sûr, ce choix est loin d'être exhaustif car les tribus indiennes sont extrêmement nombreuses. Et là, je ne parle que des États-Unis. Il s'agira donc des Lakota, des Cherokee et des Cheyennes. Donc voici les ouvrages. Ni loup, ni chien de Kate Nerburn, Betty de Tiffany McDaniel et Mille femmes blanches, les carnets de May Dodd de Jim Fergus. Premier ouvrage, Ni loup ni chien. L'auteur Kate Nerburn est né en 1946 à Minneapolis dans le Minnesota. Il a fait des études d'histoire de l'Amérique et publié une quinzaine d'ouvrages. Il a travaillé sur le rapprochement entre Amérindiens et Blancs aux États-Unis. Le livre Ni loup ni chien a en fait été écrit en 1994 et a été traduit en français et publié en 2023. De quoi s'agit-il? Une jeune femme demande à Nerburn de venir rencontrer son grand-père qui a un projet de livre. Il s'agit de Dan, un Indien Lakota, avec qui il se met d'accord pour mettre en forme les notes qu'il a écrites. Dan a lu le premier livre de Nerburn sur des Indiens de Red Lake, ce qui l'a convaincu de faire appel à lui. Mais il souhaite que le livre contienne ses mots. Nerburn enregistre donc ses paroles. Le titre, Ni loup ni chien, vient en fait du chef indien Sitting Bull. Alors, pour explications qui ne sont pas dans l'ouvrage, Sitting Bull, bison qui s'assied, en fait est le nom anglais de Tatanka Liotake. C'est un des rares chefs à ne pas avoir signé le traité de Fort Laramie en refusant la cession des terres indiennes et le confinement dans les réserves. En fait, le traité de Fort Laramie était un accord entre les États-Unis et le peuple indien Lakota qui fut signé le 6 novembre 1868 à Fort Laramie dans le Wyoming. Ce traité garantissait la possession par les Indiens de la région des Black Hills. Le traité prévoyait la protection, dans une réserve quand même, de la population amérindienne et de sa culture, et prévoyait également différentes formations permettant aux Amérindiens de développer leur agriculture. Sauf que, des violations permanentes du traité par les Blancs, en particulier à cause de la découverte d'or, a conduit à la guerre, et les États-Unis en profitèrent pour saisir les terres en 1877, en violation totale du traité. Et donc, pour Sitting Bull, les Indiens qui travaillaient pour le gouvernement états-unien n'étaient ni des guerriers rouges, ni des fermiers blancs. Ils étaient ni loups, ni chiens. Pour en revenir à la rencontre entre Dan l'Indien et l'auteur, l'entreprise dans laquelle se lance Kate Nerben est donc une expérience complexe. Il doit faire entendre les paroles de Dan, faire comprendre sa vision du monde, mais sans la déformer. Et le vieil Indien, 78 ans quand même, tient à s'assurer que ce blanc, donc Nerben, 48 ans, comprend réellement ce qu'il dit. Et il est exigeant, voire intransigeant. Lors des premières rencontres entre Nerben et l'Indien, ce dernier va lui confier ses notes. L'auteur va donc commencer l'écriture, mais ce n'est pas simple du tout. Extrait d'un dialogue entre Nerben, Dan l'Indien et Grover, l'ami de l'Indien. Donc, Nerben essaye de se justifier. « Ce sont vos mots, j'ai juste un peu nettoyé. » Il intima d'avancer avec cet étrange mouvement de la main que j'avais déjà remarqué. « Viens dehors !» Grover était resté sur le perron, les coudes appuyés sur ses genoux, ses paumes entouraient une cigarette pour empêcher le vent de la consumer trop vite. Il regarda droit devant lui et ne m'adressa pas un regard. « Il y a un truc qui cloche, » dit-il sans détourner la tête. Mes joues rougirent un peu. « Vous voulez dire que ça sonne pas bien ?»« Non, pas exactement. Ça sonne très bien. Mais ça fait pas vrai. Ça fait trop film d'Indien. » Voilà, et en effet, le résultat ne satisfait pas Dan à tel point que l'Indien va brûler ses notes. À la suite de quoi, le projet va se transformer pour devenir un véritable road trip et un voyage initiatique pour Nerben. Celui-ci est embarqué sur les routes du Dakota du Sud sans trop savoir ce qu'il attend. C'est un grand voyage et l'ami de Dan, Grover, est le chauffeur de cette excursion. Un capitaine fendant la mer des prairies, comme l'appelle Nerben. Le quatrième passager est une vieille chienne, Fatback. Voici ce que l'auteur en dit. J'eus soudain une vision de nous quatre en train de dériver sur une mer intérieure dans une espèce d'odyssée des grandes plaines. Le vieux prophète, le navigateur, le scribe et un chœur canin surréaliste faisant des commentaires dans le fond. Tout au long de ce voyage, Nerben va essayer de comprendre ces deux Indiens et non seulement leur discours, mais aussi leurs attitudes, d'autant que parfois, il se fait rabrouer et même moquer. Ainsi, par exemple, « Ça va, c'est bien. Tu aimes bien les Indiens. Moi aussi, je les aime. Mais est-ce que tu aimes les Blancs ?» C'est Dan qui parle. La question me sembla étrange. « Je ne suis pas très enthousiasmée par la culture qu'on a créée. Mais d'accord, mais les Blancs ?» Je ne comprenais pas où ils voulaient en venir. « J'aime bien les Blancs, » répondis-je. « Je veux dire, après tout, j'en suis un. »« C'est ce que je veux dire, » gloussa-t-il. « C'est bien, c'est bien. Si tu es ton peuple, tu ne peux pas être une bonne personne. Il faut aimer son peuple, même si tu détestes ce qu'il fait. » Dan va livrer peu à peu ce que la fréquentation des Blancs lui a inspiré. Il ne manque pas d'humour, mais il y a aussi de la colère en lui. Extrait. Le monde est plein de gens qui sont en partie indiens. Généralement, ils diront que c'est leur grand-mère ou leur arrière-grand-mère. C'est jamais un grand-père. Faut pas qu'il y ait d'hommes indiens dans tes ancêtres. Ils auraient pu avoir un tomahawk ou un truc du genre. Ou bien encore, les Blancs qui viennent ici pour travailler avec les Indiens, la plupart veulent être indiens. Ils sont toujours là à porter des bijoux indiens, à parler du grand esprit. Ils racontent que des conneries. Nerben se plie aux demandes de ses compagnons de route, apprend à suivre leur rythme, doit composer avec leurs humeurs et avec ce que Dan choisit ou non de révéler. Il rencontre des membres de la famille du vieil homme, car Dan évoque à peine ses années de pensionnat. C'est sa petite-fille, Wenona, qui parle à Nerben des mauvais traitements et des punitions qu'il y a subies. Il ne parle pas de sa femme et très peu de son fils. Ce sont donc sa fille ou sa petite-fille qui vont dévoiler certaines choses. La place des femmes est aussi en question, en filigrane et parfois au second degré. Dan, si un blanc est avec une femme indienne, ça peut à la limite aller. C'est comme ça qu'ils aiment que ce soit dans les films. Mais si un indien est avec une femme blanche, c'est qu'elle doit avoir un problème et choisir d'être avec un de ces gens-là. Je pense que ça a quelque chose à voir avec la conquête. L'homme blanc doit avoir le contrôle. Si un homme d'une couleur différente contrôle une femme blanche, soit un truc cloche chez elle, soit c'est lui qui a une mauvaise intention. C'est une captive ou une renégate. Je veux dire, pourquoi une blanche décente aurait envie d'être avec un indien ? Bon, on voit quand même beaucoup d'amertume. D'autant plus étonnant que Nerbonne finit par découvrir que Dan a eu un fils, mort dans des circonstances pas très claires, avec une femme blanche dont il ne parle jamais. À travers Dan s'exprime la lassitude de nombreux hommes. Sa petite-fille, Danelle, que Nerbonne rencontre au cours de ce voyage, affirme qu'il est temps pour les femmes de prendre les relais. Les hommes sont fatigués. Ils se sont battus pendant presque 200 ans. Maintenant, c'est notre tour. Il est aussi question de spiritualité. Dan considère que les Blancs ont perdu le sens du sacré, que la recherche de l'exactitude, et plus encore celle du profit matériel, ont contribué à les en éloigner. Dan emmène Ken Nerbonne dans un lieu de mort, Wooden Knee, qui commémore l'un des massacres les plus emblématiques des guerres entre Blancs et Indiens à la fin du XIXe siècle. Des centaines de morts, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. Quelques explications qui ne sont pas dans l'ouvrage. En février 1890, le gouvernement des États-Unis rompt un traité passé avec les Lakota en divisant la grande réserve, qui englobait la plus grande partie de l'État, en 5 réserves, mais dont la totalité est plus petite. Cela répond aux intérêts des propriétaires de l'Est, conformément à la politique clairement affichée du gouvernement de rompre les relations tribales et d'obliger les Indiens à se conformer au mode de vie de l'homme blanc, pacifiquement si possible, ou sinon par la force. Et voilà, et au matin, les hommes de Lakota sont rassemblés et informés qu'ils doivent remettre toutes leurs armes à feu. Les soldats, craignant que les armes restent cachées, commencent à fouiller les tentes, provoquent la colère des Lakota. Bref, ça dégénère. Et voilà, une fusillade générale s'ensuit. La plupart des hommes Lakota encerclés par les soldats sont abattus. Voilà, et les canons bombardent le village, les femmes, les enfants. Bref, un carnage. Donc, fin de la parenthèse. Dan et Nerbonne y passent une nuit de prière et de vision. Le vieil homme continue de s'interroger sur le sort des peuples amérindiens. Il dit « Mon peuple doit se tenir comme une ombre pour vous. Rappelez vos échecs. Peut-être que c'est nous qui sommes les vrais fils et filles de Dieu, lui qui a dû mourir sur la croix de vos peurs et de votre avidité pour que vous puissiez être sauvés de vous-même. » Dan et Nerbonne sont l'un et l'autre convaincus de l'importance de la langue et du choix des mots. Dan a trop entendu son peuple traité comme des sauvages pour ne pas être méfiant envers l'anglais. Si l'enseignement de l'histoire aux États-Unis ne nie plus l'existence des civilisations amérindiennes, la place accordée aux Amérindiens dans les cours d'histoire, particulièrement dans l'histoire récente, demeure quand même souvent marginale. À un moment, Nerbonne et ses compagnons de voyage croisent un couple d'Indiens, malheureusement alcooliques, et il entend des Blancs en parler comme des nègres des prairies. Quand Ken dit devant un paysage « c'est un bel endroit », Dan rétorque « c'est pas juste un endroit, ça, c'est de la parlotte de Blancs. La terre est vivante, on se tient sur elle, on fait partie d'elle ». Les Blancs ont toujours essayé de faire de nous des animaux. Ils veulent qu'on soit comme les animaux dans un zoo. Si mes mots ne rentrent pas comme ils le devraient, selon un Blanc, tu feras de moi un animal de zoo. Et puis, évidemment, beaucoup de sagesse. Dernier petit extrait. Tu dois comprendre ça, Nerbonne, dit-il. T'es pas un bon menteur. Toute légèreté avait disparu de sa voix. « Non, je ne l'ai jamais été. Je sais. Je vois à quel point tu mens mal. » Je rougis un peu. Je ne pensais pas lui avoir menti. Et les vieilles personnes m'effrayent lorsqu'elles faisaient de telles remarques. C'était comme si elles avaient une lucidité particulière qui leur permettait de voir plus clairement. « Est-ce que j'ai menti ?»« Pas en parole. Seulement par le silence. » Au départ, j'ai pris ce livre comme un roman et je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'un documentaire. Mais en même temps, quand on interroge l'auteur pour savoir si c'est une fiction ou non, il reste un peu évasif, comme si c'était un peu des deux. Voici ce qu'il dit. Et je marchais sur le fil du rasoir tout le long, car ce n'est ni de la fiction ni de la non-fiction. Ce n'est ni un loup, ni un chien. C'est une véritable histoire pédagogique qui utilise des personnes réelles, des événements réels, des scènes réelles, des événements réels auxquels j'ai pris part. Les personnages sont forts, drôles, parfois impénétrables, et rendent le lecteur ou bien l'auteur lui-même perplexe. Et c'est bien ainsi que s'exprime le fossé culturel entre l'Indien et l'homme blanc, la façon de voir le monde. Peut-être quelques longueurs et des répétitions, mais franchement, un livre passionnant. Et juste pour finir et pour information, le 30 juin 1980, la Cour suprême américaine a condamné le gouvernement à payer un dédommagement d'un montant de 105 millions de dollars aux Amérindiens. Mais par contre, elle refusa quand même de rendre les terres. Et puis, deuxième petite information, Joe Biden a signé le décret du 10 octobre 2021 pour la Journée nationale des peuples indigènes, ce qui fait passer au second plan le Columbus Day pour Christophe Colomb.
Vous écoutez le Chaudron des Découvertes sur Radio Bartas, 107FM.
Le deuxième ouvrage dont je vais vous parler est Betty, de Tiffany McDaniel. Tiffany McDaniel est née en 1985 dans l'Ohio. Elle est écrivaine autodidacte et artiste visuelle. En 2003, elle achève une première version de Betty qu'elle envoie à plusieurs éditeurs qui la refusent, car selon eux, le texte est trop féminin et trop dangereux. Et ce n'est qu'en 2017 qu'un éditeur accepte son manuscrit. Il sera traduit en français en 2020. Tiffany McDaniel a travaillé avec un généalogiste, ce qui lui a permis de découvrir l'héritage amérindien de sa famille. Betty est le prénom de sa mère, Métis Cherokee. Sa mère est une poétesse et elle va révéler un secret de famille à sa fille Tiffany, ce qui va lui donner l'envie d'écrire un roman. C'est donc une fiction, mais très inspirée par l'histoire de sa famille. Et là encore, on en apprend beaucoup sur la vie de la société Cherokee, qui au départ était matriarcale et matrilinéaire. Je vais vous lire une note d'introduction de l'auteur. Cette histoire se passe dans les contreforts des Appalaches, dans le sud de l'Ohio. C'est une région où des familles s'épanouissent et où des femmes et des hommes trouvent leur vérité et leur voie. Le sud de l'Ohio peut s'enorgueillir de ses traditions, de sa culture et de son histoire. Il a son propre accent sudiste et son propre parler. Je suis honorée de pouvoir dire que je suis chez moi dans cette région. J'espère qu'après avoir lu ce roman, vous aimerez cette partie de l'Ohio autant que je l'aime. J'espère également que vous prendrez plaisir à lire cette histoire qui puise son inspiration dans la vie de ma famille sur plusieurs générations. Elle s'inspire en particulier de la force de caractère de ma mère et des femmes qui m'ont précédée. Elles se sont dressées face à l'adversité pour affirmer leur propre pouvoir. C'est pour moi un honneur d'avoir pu raconter une telle histoire. Voilà, si ça peut donner envie. Alors, le début du roman est un peu surprenant et on comprendra pourquoi plus tard. Cette femme blanche, mère de Betty, Betty qui naîtra en sixième position dans la famille, va rencontrer un homme, un Indien, et va littéralement se jeter dans ses bras. Et ça, tout ça, on le comprendra plus tard. Et très vite, le couple va vivre ensemble et vont naître 8 enfants, dont 2 mourront en bas âge. Betty, née en 1954, après un frère et 2 sœurs encore vivants, viendront ensuite 2 frères. Betty est typée, cheveux noirs et peau foncée. Son père l'appelle « petite indienne ». Il a une belle relation avec sa fille, comme avec ses autres enfants d'ailleurs, mais Betty, du fait de son apparence physique et de ses questions, favorise ses échanges avec le père, cet Indien Cherokee qui raconte de manière poétique son héritage culturel, ses connaissances de la vie, de la terre. Les discussions entre Betty et son père sont empreintes de douceur, d'amour et de la fierté d'être Cherokee. Tout au long de ce récit, Betty observe, essaye de comprendre, fait face à des événements qui la bousculent ou l'inquiètent. Extrait. Les cheveux de mon père étaient noirs. Sa peau était brune comme le bolide de terre des rivières dans lesquelles il nageait. Des ombres se nichaient dans ses joues anguleuses. Ses yeux avaient la couleur de la poudre qu'il faisait avec les coquilles de noix. Il m'a donné ses caractéristiques. La terre a posé son sceau sur mon âme, sur ma peau, sur mes cheveux, sur mes yeux. C'est lui qui m'a donné toutes ces choses. « Parce que tu es une Cherokee », m'a dit papa quand j'avais 4 ans et que j'étais assez grande pour demander pourquoi les gens m'appelaient Morricone. « Ils te donneront des noms bien pires que ça », m'avait-il ajouté. « Mais ça veut dire quoi, Cherokee ?»« Cherokee », répète après moi. « Cher-o-qui ». En prononçant le « o », il a ouvert les lèvres d'une drôle de façon et j'ai éclaté de rire. « Chériqui », ai-je dit à nouveau. Puis je l'ai répété jusqu'à ce que je finisse par prononcer le mot correctement. « Mais c'est quoi ?»« C'est toi. Tu es une Cherokee », a-t-il répondu en m'installant sur ses genoux. Betty, qui interroge et interpelle son père. « Et moi, je suis qui ?»« Toi, tu es Betty. » »« Comment je peux le savoir ?»« En pensant à tes ancêtres. » « Tu es la descendante de grands guerriers. » Il a posé la main sur ma poitrine. « Tu es la descendante de grands chefs qui ont mené leur nation à la guerre et à la paix. » Puis il a dit, « Tsa Laji, en me tenant la main pour écrire le mot en l'air avec la sienne. » Parfois, je rêvais de ses ancêtres. Je rêvais qu'ils me prenaient les mains dans les leurs pour frotter leurs paumes contre les miennes, jusqu'à ce que notre peau se détache et se recroqueville comme l'écorce sur l'arbre, et que je puisse parler comme eux, dans la langue d'autrefois. Quand je sortais de ce rêve, je plaquais ma paume contre mon oreille pour essayer d'entendre leur voix. J'attendais que ces voix, par leur rythme, m'éveillent à la vie. Le père est poète, jardinier et guérisseur. Voici ce qu'il dit. Pour les Cherokees, nous racontait-il, la terre est personnifiée au féminin. La mère, la femme, la première a été Selu. Elle pouvait faire du maïs en tapotant son ventre et elle faisait des haricots en caressant son aisselle. Mais sa magie a été vue comme de la sorcellerie et elle a été assassinée par des garçons sauvages. Son sang s'est infiltré dans la terre. C'est de ce sang que tout a poussé. Aujourd'hui encore, le sang de Selu est dans notre sol. L'herbe n'était jamais tondue, mais le jardin était toujours propre, bien entretenu par papa qui avait fait deux potagers, séparés par les 80 pas que mes sœurs et moi avions mesurés. Le premier carré était cultivé pendant 3 ans, pendant que l'autre était laissé au repos. Outre les nombreux drames qui vont émailler le récit, Betty va être confrontée à la méchanceté, au racisme. Et chaque fois, le père répond, panse les blessures par les mots. Entre autres, sur l'humiliation d'un déguisement d'Halloween qui déplaît fort à Betty, mais qui rêvait d'un costume de princesse, le père. « Tu sais, les Cherokees n'avaient pas de princesse. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'en être une. » Il a hoché la tête. Quand j'avais ton âge, moi aussi, je voulais être quelqu'un d'autre. Tu voulais être qui, Pa ? Quelqu'un d'important. Tu sais pourquoi je t'appelle petite indienne ? Il s'est arrêté de dessiner pour me regarder dans les yeux. C'est pour que tu saches que tu es déjà quelqu'un d'important. Après plusieurs déménagements, la famille va s'installer dans un village appelé Brézède, qui en fait est une bourgade complètement imaginaire, dans une maison déglinguée et la vie va s'y organiser tant bien que mal. C'est dans cet environnement que les personnages vont prendre place avec des caractères spécifiques. Le père, bien sûr, la mère qui souffre et fait parfois souffrir Betty et les frères et sœurs qui ont des velléités ou des obsessions, voire des troubles. Et puis, il y a les personnages extérieurs à la maison, comme Rutis, une camarade de classe qui la harcèle. L'auteur dit que ce personnage est un mélange des personnes qui s'en sont pris à sa mère. Ou autre personnage, sacré personnage, la vieille Slipperwort, qui a revendiqué son homosexualité à une époque où c'était quand même très très mal vu, et qui va avoir une belle relation avec Betty. Le père s'appuie sur des contes et des mythes pour expliquer la vie à sa fille. Papa a sorti de sa poche la petite sculpture d'une fille avec des ailes. Je savais qu'il avait dû la fabriquer dans l'après-midi en attendant la pluie. Cette fille avait mon visage. J'ai souri à mon père pour m'avoir représenté avec des ailes, tandis qu'il me racontait comment les anges gardiens se sont précipités sur les hommes avec les scies et les haches. Alors les anges gardiens ont vu les diamants briller dans les tonneaux sur les bateaux des hommes et ils leur ont dit « Si vous donnez vos diamants, nous pourrons faire quelque chose au sujet de vos bateaux qui se fracassent contre les arbres. Mais ces diamants sont ce qui fait de nous des hommes riches. Sans eux, nous serons pauvres. Les anges gardiens leur ont répondu qu'ils étaient des hommes stupides. C'est votre vie qui fait que vous êtes riches, ont-ils insisté. Les gens que vous aimez et qui vous aiment en retour. Une sorte de feuilleton s'intercale dans le récit qui révèle des actes de vandalisme, coups de fusil, etc., dont on découvrira à la fin qui est responsable. Donc tout ce récit est une sorte de road trip fait de violence, de douceur, de pauvreté, d'abus sexuels, d'inventivité et de beaucoup d'amour, mais aussi de grandes failles, de morts violentes, de racisme. C'est parfois triste et morbide, mais l'enrobage est tellement beau que c'en est supportable. Et puis surtout, enfin, il y a une libération, une prise de distance et d'autonomie. Je ne vais pas résister à l'envie de vous lire ce petit passage. Je te pardonne, Rutis. Je te pardonne d'avoir fait de l'école un enfer pour moi, de me dire que je suis moche et une ratée. Oui, je te pardonne parce que, un de ces jours, tu auras mauvaise conscience et tu auras envie de me revoir pour pouvoir t'excuser. Seulement, ce jour-là, je serai tellement loin de toi qu'il faudra que tu prennes une fusée pour parvenir jusqu'à moi. Mais on ne laisse pas n'importe qui rejoindre les étoiles. Je te pardonne aujourd'hui, comme ça, plus tard, quand tu te rendras compte que ta vie est horrible et que nous aurions pu être amis tout ce temps, tu sauras au moins que je t'ai survécu. J'ai relâché mon étreinte et j'ai replacé une mèche de ses cheveux derrière son oreille et puis je l'ai planté là, bouche bée. Les mots lui manquaient. Voilà, c'est un petit peu la triste vengeance de Betty. Un très très beau livre, un gros livre, mais vraiment magnifique. Alors, je vais vous faire un tout petit aperçu d'un livre que sans doute beaucoup de gens connaissent maintenant parce que celui-là, il est connu et ancien. C'est « Mille femmes blanches » de Jim Fergus. Ce livre est sorti aux États-Unis en 1998 et en France 2 ans plus tard. « Mille femmes blanches », en fait, se déroule aux États-Unis dans les années 1870 et dénonce la politique du gouvernement américain, notamment du président Grant, vis-à-vis des tribus indiennes. Jim Fergus met en scène Little Wolf, chef des Cheyennes du Nord, qui a réellement existé. Le point de départ de cette œuvre de fiction serait une visite de Little Wolf, donc chef Cheyenne, à Washington. Alors on ne sait pas très bien, 1873, 74 ou 75, Little Wolf, sentant la pression sans cesse croissante des colons, se rend à Washington avec une proposition à faire au président Grant. En échange de 1000 chevaux, il demande 1000 femmes blanches. Son idée est la suivante. Ces femmes, en se mariant avec des hommes de son peuple, feront des enfants qui assimileront mieux la civilisation blanche et la transmettront ainsi à son peuple. Il voit par ce métissage le moyen de mettre fin aux guerres incessantes entre les Blancs et les Cheyennes. Alors bien sûr, il est renvoyé avec indignation, mais en coulisses, le gouvernement des États-Unis accepte cette proposition. Et il vide les prisons et les asiles de femmes qui s'y trouvent pour les donner aux Indiens. Certaines femmes seront même volontaires, se disant qu'elles n'ont rien à perdre. Mais bien sûr, le journal de Mary Dodd est quand même une fiction. Bien que cette femme ait existé, son journal a été complètement inventé par l'auteur. Et c'est assez bizarre d'ailleurs, le destin de Mary Dodd a intrigué Will Dodd. C'est l'un de ses descendants qui a entendu des légendes familiales se propager au sud de son aïeul, qu'on disait quand même un peu dérangé. Et en fait, il s'est rendu à l'asile où elle avait été enfermée, mais il ne s'y trouve plus aucun dossier concernant les patients des années 1870. Ces documents, sans doute jugés encombrants et non essentiels, ont été détruits et condamnant en fait les descendants des internés à l'ignorance. Mais encore une fois, si « Mille femmes blanches » est bien une fiction, elle montre aussi la vie des Amérindiens. Je vous souhaite de belles lectures. Ni loup, ni chien et Betty, je les ai trouvées à la médiathèque de Florac. Voilà, beaucoup de plaisir à lire et à une prochaine fois.